Rodolphe Töpffer, Nouvelle Genevoise, le presbytère. Il y a des moments dans la vie où une heureuse réunion de circonstances semble fixer sur nous le bonheur. Le calme des passions, l'absence d'inquiétude nous prédisposent à jouir et, si au contentement d'esprit, vient s'unir une situation matériellement douce, embellie par d'agréables sensations, les heures coulent alors délicieusement et le sentiment de l'existence se pare de ses plus rares riantes couleurs. C'est précisément le cas où se trouvaient les trois personnages que j'avais sous les yeux. Rien au monde dans leur physionomie qui trahit le moindre souci, le plus petit trouble, le plus faible remords. Au contraire, on devinait au léger engorgement de leur cou ce légitime orgueil qui précède du contentement d'esprit. La gravité de leur démarche annonçait le calme de leur cœur, la moralité de leur pensée et, dans ce moment même où, cédant aux molles influences d'un doux soleil, ils venaient de s'endormir, encore semblait-il que de leur sommeil s'exhalât un suave parfum d'innocence et de paix. Pour moi, l'homme est sujet aux mauvaises pensées. Depuis un moment, je maniais une pierre. À la fin, fortement sollicité par un malin désir, je la lançai dans la mare tout à côté. Aussitôt, les trois têtes sortirent en sursaut de dessous l'aile. Oui, c'étaient trois canards, j'oubliais de le dire. Ils faisaient là leur sieste, tandis qu'assis au bord de la flaque, je songeais, presque aussi heureux que mes paisibles compagnons. Au champ, l'heure de midi est celle du silence, du repos, de la rêverie. Pendant que le soleil darde à plomb ses rayons sur la plaine, hommes et animaux suspendent leur labeur. Le vent se tait, l'herbe se penche. Les insectes seuls, animés par la chaleur, bourdonnent à l'envi dans les airs, formant une lointaine musique qui semble augmenter le silence même. À quoi je songeais? À toutes sortes de choses, petites, grandes, indifférentes ou charmantes à mon cœur. Et j'écoutais le bruissement des grillons, ou bien, étendu sur le dos, je regardais au firmament les métamorphoses d'un nuage. D'autres fois, me couchant contre terre, je considérais, sur le pied d'un saule creux, une mousse humide toute parsemée d'imperceptibles fleurs. Et je découvrais bientôt dans ce petit monde des montagnes, des vallées, d'ombreux sentiers, fréquentés par quelque insecte d'or, par une fourmi diligente. À tous ces objets s'attachait dans mon esprit une idée de mystère et de puissance qui m'élevait insensiblement de la terre au ciel, et alors la présence du Créateur se faisait fortement sentir, mon cœur se nourrissait de grandes pensées. Quelquefois, les yeux fixés sur les montagnes, je songeais à ce qui est derrière, au lointain pays, aux côtes sablonneuses, aux vastes mers. Et si au milieu de ma course je venais à heurter quelque autre idée, je la suivais où elle voulait me conduire, si bien que du bout de l'océan, je rebroussais seulement jusque sur le pré voisin ou sur la marge de mon habit. Il m'arrivait aussi de tourner les yeux sur le vieux presbytère, à 50 pas de la mare derrière moi. Je n'y manquais guère lorsque l'aiguille de l'horloge approchait de l'heure et qu'à chaque seconde j'attendais de voir, au travers des vieux arceaux du clocher, le marteau s'ébranler, noir sur l'azur du ciel et retomber sur les reins. Surtout, j'aimais à suivre de l'oreille le tintement sonore que laissait après lui le dernier coup, et je recueillais les ondes décroissantes jusqu'à ce que leur mourante harmonie s'éteignit dans le silence des airs. Je revenais alors au presbytère, à ses paisibles habitants, à Louise, et laissant retomber ma tête sur mon bras, j'errais en compagnie de 1000 souvenirs dans un monde connu de mon cœur seulement. Ces souvenirs, c'étaient les jeux, les plaisirs, les agréables passe-temps dans lesquels s'était écoulée notre enfance. Nous avions cultivé des jardins, élevé des oiseaux, fait des feux au coin de la prairie. Nous avions mené les bêtes aux champs, monté sur l'âne, abattu des noix et folâtré dans les foins. Pas un cerisier ou verger, pas un pêcher de ceux qui cachaient au midi le mur de la cure, qui ne se distingua pour nous de tous ceux du monde entier parmi le souvenir que ramenait, comme les fruits, chaque saison nouvelle. J'avais, oh, l'enfant est sujet aux mauvaises pensées, j'avais, pour elle, picoré les primeurs chez les notables du voisinage. Pour elle encore, j'avais eu des affaires avec le chien, avec le garde champêtre, avec le municipal. Incorrigible tant qu'elle aima les primeurs. Dans ce temps-là, tout entier au présent, j'agissais, je courais, je grimpais, je songeais peu, je rêvais moins encore, si ce n'est parfois la nuit, au garde champêtre. Mais ce jour dont je parle, ce n'était pas du garde champêtre que j'étais occupé. Et puis il était mort. Et son successeur, m'ayant trouvé plus souvent solitaire au bord de la mare qu'attentif aux primeurs, avait conçu de moi une opinion très avantageuse. Cet homme sensé avait deviné que la préférence que je marquais pour les arides bords de la flaque ne pouvait provenir que d'une préoccupation entièrement étrangère à cette préoccupation des primeurs, que son métier était de contenir dans de justes bornes. En effet, malgré l'ingrate aridité de ses étroites rives, j'avais pris en affection singulière cette petite mare et son saule ébranché. Peu à peu, j'en avais fait mon domaine, sûr que j'étais, à l'heure de midi, de n'y rencontrer personne que les trois canards, dont la tranquille société me plaisait beaucoup depuis que le sentiment de leur présence s'était associé au charme de mes rêveries. Il faut dire aussi que, par un singulier changement qui s'était fait en moi, j'aimais presque mieux, depuis quelque temps, songer à Louise qu'être auprès d'elle. Ce goût étrange m'était venu j'ignore comment, car nous étions les mêmes êtres qui, jusqu'alors, n'ayons eu d'autre instinct que de nous chercher l'un l'autre pour jaser, courir et jouer ensemble. Seulement, j'avais vu quelquefois la rougeur parcourir son visage, une timidité plus grande, un sourire plus sérieux, un regard plus mélancolique, et je ne sais quelle gêne modeste avait remplacé sa gaieté folle et son naïf abandon. Ce changement mystérieux m'avait beaucoup ému. Aussi, quoique je l'eusse toujours connue, il me semblait néanmoins que je la connusse depuis peu de temps, et de là naissait quelque embarras dans mes manières auprès d'elle. C'est vers cette époque que j'avais commencé à fréquenter la mare, où, accompagné de son image, je l'oubliais des heures entières. Je m'y complaisais surtout à rebrousser dans le passé, pour embellir le souvenir dont j'ai parlé de ce charme tout nouveau que je trouvais en elle. Je le reprenais un à un jusqu'au plus lointain, et portant dans chacun d'eux les récentes impressions de mon cœur, Je repensais avec délice par toutes les situations, si simples pourtant, de notre vie champêtre, y goûtant un plaisir qui me les faisait chérir avec tendresse. Je reçus une visite. C'était un moineau qui vint se poser étourdiment sur le saule. J'aime les moineaux et je les protège. C'est un rôle héroïque pour qui vit au champ, où nous tous les détestent et conspirent contre leur scélérat de vie, car leur crime journalier, c'est de manger du grain. Oh, celui-là, je le connaissais, et trois ou quatre autres encore, avec qui nous conspirions à notre tour contre l'égoïsme des hommes. Les blés étant mûrs, l'on avait planté au milieu du champ un grand échalas, surmonté d'un chapeau percé qui servait de tête à des haillons flottants. Les moineaux voyaient bien les épis gros et dorés, mais pour tout le grain du monde, ils n'eussent osé toucher à un seul, sous les yeux du grand magistrat qui en avait la garde. Il en résultait que, venant à la mare, le long de la rizière du champ, je ne manquais pas d'arracher une douzaine d'épis sans remords aucun, avec une secrète joie. Je les dispersais ensuite tout autour de moi, et je voyais avec un plaisir que je ne puis feindre les moineaux fondre des branches voisines sur cette modique pâture et piquer le grain presque sur ma main. Et quand, au retour, je repassais devant le fantôme, un léger mouvement d'orgueil effleurait mon cœur. Le moineau, après une courte station sur le saule, fondit sur un des épis qui se trouvait à côté des canards. Les canards sont maîtres chez eux et trouvent inconvenant qu'un moineau les dérange. Ceux-ci, allongeant le cou d'un air colère, se dirigèrent en criant contre le léger oiseau qui, déjà remonté dans les airs, regagnait joyeusement sa couvée, l'épi dans le bec à la barbe du fantôme. Mais le chant des canards, ce ne fut point, je pense, par un mouvement d'impertinence, mais plutôt par l'effet puissant de ces lois mystérieuses qui président aux associations d'idées, le chant un peu rauque que venaient de faire entendre mes trois compagnons porta involontairement mes pensées sur le chantre du presbytère. Ce qui me fait croire qu'en cela je ne fus point conduit par une maligne intention, c'est que j'aimais peu songer à cet homme, et le plus que je pouvais, je l'écartais de mes souvenirs dans lesquels il ne figurait que pour en altérer le calme. En effet, avant tout autre, il m'avait fait connaître la peur, la honte, la colère, la haine même et d'autres passions mauvaises que sans lui j'eusse ignoré longtemps encore. Il passait pour juste, moi je le trouvais méchant. On disait sévère, je le trouvais brutal. Et j'avais, pour trouver cela, des motifs qui, à la vérité, m'étaient personnels. Par justice, il avait dénoncé plus d'une fois mes délits aux notables, aux gardes champêtres, à mon protecteur même, me faisant la réputation d'un incorrigible garnement. C'était par sévérité que, joignant le geste au reproche, il m'avait plus d'une fois fait connaître la vigueur de son bras et l'éclat sonore de sa large main. Voilà ce qui influençait mon opinion. Si j'eusse vécu avec lui seul, peut-être j'aurais pris en habitude ses procédés, et remarquant que presque jamais je n'étais irrépréhensible, je les eusse regardés comme la conséquence d'une vertueuse indignation. Mais j'avais sous les yeux d'autres exemples, et l'indulgente bonté que je rencontrais dans le cœur d'un autre homme formait un contraste qui me faisait paraître la vertu du chantre tout à fait repoussante. C'est ainsi qu'il y avait pour moi deux justices, deux vertus, l'une rigide, colère et peu aimable, l'autre indulgente, douce et digne d'être éternellement chérie. Mais un autre grief m'animait contre le chantre, et celui-là plus profond que les autres. Depuis que j'avais grandi, il ne courait plus aux mêmes arguments qu'autrefois. Mais son humeur s'exhalait en reproches violents et en discours empreints d'une défiance qui commençait à blesser ma fierté. Je la méritais pourtant jusqu'à un certain point, car comme il y avait là à la cure un autre homme pour qui mes actions étaient sans voile, je me croyais point tenu de tout avouer au chantre, en sorte que, déjà absous à mes propres yeux du reproche de mensonge ou de fausseté, je mettais auprès de lui quelques malices dans mes réticences. En provoquant ainsi sa colère quelque temps auparavant, je m'étais attiré une punition cruelle. Un mot funeste lui était échappé, qui, tout en me montrant chez cet homme l'intention de m'outrager, avait en même temps altéré profondément l'heureuse sécurité où j'avais vécu jusqu'alors. Comme j'avais l'air de braver sa fureur en opposant à la violence de ses emportements la douceur patiente de mon protecteur, « Il est trop beau pour un enfant trouvé !» m'avait-il dit. Plein de stupeur, je m'étais hâté de fuir dans un endroit solitaire pour y calmer le trouble où ces mots avaient jeté mon âme. Depuis cette époque, je fuyais sa présence et mes plus belles journées étaient celles où les travaux de la campagne l'appelaient à s'absenter de la cure. Alors j'éprouvais dès le matin une confiante sécurité qui répandait son charme sur tous mes projets, et j'oubliais jusqu'aux funestes paroles qui m'avaient tant ému. Quelquefois aussi, songeant que cet homme était le père de Louise, je surprenais dans mon cœur une involontaire vénération pour lui, et sa rudesse même ne me semblait pas un obstacle à l'aimer. Pourtant ce sentiment plus loin encore, plus il m'inspirait d'étonnement, plus je trouvais digne d'envie de combler la distance qui me séparait de lui par le dévouement, le sacrifice et la tendresse. Et voyant luire au-delà des jours sans haine, je cédais aux besoins de mon cœur et, du sein de ma solitude, je chérissais cet homme redouté. Tout en songeant au chantre, je m'étais étendu sur le dos, après avoir placé mon chapeau sur mon visage pour me défendre du soleil. J'étais dans cette position lorsque je sentis une légère démangeaison qui, commençant à l'extrémité de mon pouce, cheminait lentement vers les sommités de ma main droite, négligemment posée par terre. Quand on est seul, tout est événement. Je m'assis pour m'y reconnaître la cause. C'était un tout petit scarabée, d'un beau rouge moucheté de noir, de ceux que chez nous on nomme pernette. Il s'était mis en route pour visiter les curiosités de ma main, et déjà, arrivé près de la première phalange, il continuait tranquillement son voyage. L'envie me prit aussitôt de lui faire les honneurs du pays, et le voyant hésiter en face des obstacles que lui présentaient les replis de la peau dans cet endroit, je saisis de l'autre main une paille que j'ajustais entre le pouce et l'index de manière à lui former un beau pont. Alors, l'ayant un peu guidé en lui fermant les passages, j'eus le bonheur inexprimable de le voir entrer sur mon pont, malgré la profondeur de l'abîme, au fond duquel les replis de mon pantalon, éclairés par le soleil, devaient lui apparaître comme les arêtes vives d'un affreux précipice. Je m'aperçus pourtant point que la tête lui tourna. Mais, par un malheur heureusement fort rare, le pont vint à chavirer avec son passant. Je redoublai de précautions pour retourner le tout sans accident, et mon hôte toucha bientôt au bord opposé, où il poursuivit sa marche jusqu'au bout de l'index qui se trouvait noirci d'encre. Cette tache d'encre arrêta mes regards et ramena ma pensée sur mon protecteur. C'était l'obscur pasteur du petit troupeau disséminé par les champs autour du vieux presbytère. Enfant, je l'avais appelé mon père, et plus tard, voyant que son nom n'était pas le mien, avec tout le monde, je l'avais appelé Monsieur Prévert. Mais lorsque le mot du chantre m'eut révélé un mystère sur lequel, depuis peu seulement, je commençais à réfléchir, Monsieur Prévert m'était apparu comme un autre homme et avait cessé de me paraître un père pour me sembler plus encore. Dès lors, à l'affection confiante et familière que sa bonté m'avait inspirée, était venue se joindre une secrète vénération qu'accompagnait un respect plus timide. Je me peignais sans cesse cet homme pauvre mais plein d'humanité, recueillant à lui mon berceau délaissé. Et plus tard, je me le rappelais, excusant mes fautes, souriant à mes plaisirs et tantôt me donnant d'indulgentes leçons, plus souvent encore, provoquant mon repentir par la tristesse de son regard et la visible peine de son cœur, en tout temps attentif à compenser par ses tendres soins l'infériorité où pouvait me placer aux yeux des autres le vice de ma naissance. En songeant que durant tant d'années il avait dédaigné d'en trahir le secret et de s'en faire un titre à ma reconnaissance, je me sentais attendri par les plus vifs sentiments de respect et d'amour. Mais en même temps que j'éprouvais plus d'affection pour lui, j'étais venu plus timide à la lui témoigner. Plusieurs fois, ému de reconnaissance, j'avais été sur le point de me jeter dans ses bras, laissant à mes pleurs et à mon tout trouble le soin de lui montrer tout ce que je n'osais ou ne savais lui dire, et toujours la retenue que m'imposait sa présence, comprimant l'essor de mes sentiments, je restais auprès de lui, gauche, silencieux, et en apparence plus froid qu'à l'ordinaire. Alors aussi j'éprouvais le besoin de m'éloigner, et mécontent de moi, je revenais dans ma solitude. Là, j'imaginais mille incidents d'où je puisse tirer occasion de lui parler, et bientôt, trouvant un langage, je lui tenais tout haut les plus tendres discours. Mais l'oserais-je dire? Souvent, par un tour bizarre que prenait mon imagination, j'aimais à me supposer atteint d'un mal mortel, appelant à mon chevet cet homme vénéré, et là, comme si l'attente d'une mort prochaine et prématurée dût imprimer à mes paroles un accent plus touchant et plus vrai, je lui demandais pardon de mes fautes passées. Je bénissais avec attendrissement ses soins, ses bienfaits. Je lui disais un dernier adieu, et versant dans mes discours l'émotion croissante dont j'étais pénétré, je jouissais en idée de sentir une de ses larmes se mêler à mes sanglots. J'avais encore recours à un autre moyen, tout aussi étrange, mais qui n'allait pas mieux au but. Cet homme que je voyais tous les jours, à qui je pouvais parler à chaque instant, j'avais imaginé de lui écrire des lettres, et la première fois que cette idée me vint, elle me sembla admirable. Enfermé dans ma chambre, j'en composais plusieurs. Je choisissais ensuite celle qui me plaisait le plus, et je la mettais dans ma poche pour la remettre moi-même aussitôt que j'en trouverais l'occasion. Mais dès que j'avais cette lettre sur moi, j'évitais le plus possible de me trouver avec M. Prévert. Et si je venais à le rencontrer seul, une vive rougeur me montait au visage, et mon premier soin, pendant qu'il me parlait, était de froisser et d'anéantir au fond de ma poche cette lettre où se trouvait pourtant ce que j'aurais tant aimé lui dire. Mais ce n'était pas à l'occasion d'une lettre semblable que ce jour-là je m'étais noirci le bout du doigt. Voici ce que je lui avais écrit le matin même sur une feuille que j'étais venu relire auprès de la mare. « Monsieur Prévert, je vous écris parce que je n'ose vous parler de ces choses. Plusieurs fois j'ai été à vous, mais en vous voyant les mots m'ont manqué, et pourtant je voulais vous dire ce que j'ai sur le cœur. C'est depuis 6 mois, monsieur Prévert, depuis la course aux montagnes, que nous revînmes tard, Louise et moi. Je n'ai plus été le même et je ne sais plus trouver de plaisir qu'à ce qui se rapporte à elle. Aussi je crains de vous avoir souvent paru distrait, négligent et peu appliqué. C'est involontaire, je vous assure, monsieur Prévert, et j'ai fait des efforts que vous ne savez pas. Mais au milieu, cette idée me revient sans cesse et toutes sortes d'autres que je vous dirai et que vous trouverez, je crains, bien extravagantes ou blâmables. À présent que je vous ai dit cela, je sens que j'oserai vous parler si vous me questionnez. Charles. » Je lisais et relisais cette lettre bien déterminée à la remettre le jour même. Un soir de l'automne précédent, nous étions partis, Louise et moi, pour visiter les deux vaches de la cure qui passaient l'été au chalet à mi-côte de la montagne. Nous prîmes par les bois, jasant, folâtant le long du sentier, et nous arrêtant aux moindres choses qui se rencontraient. Dans une clairière, entre autres, nous fîmes crier l'écho. Puis, à force d'entendre sa voix mystérieuse sortir des taillis, une espèce d'inquiétude nous gagna, et nous nous regardions en silence, comme si c'était une troisième personne avec nous dans les bois. Alors nous prîmes la fuite d'un commun mouvement pour aller rire plus loin de notre frayeur. Nous arrivâmes ainsi près d'un ruisseau assez rempli d'eau pour rendre le passage difficile, à pied sec du moins. Aussitôt je proposai à Louise de la porter sur l'autre rive. Oh, je l'avais fait 100 fois! Elle refusa, et tandis que, surpris, je la regardais, une vive rougeur se répandit sur son visage, en même temps que 1000 impressions confuses me faisaient rougir moi-même. C'était comme une honte jusqu'alors inconnue qui nous portait ensemble à baisser les yeux. Je songeais de lui faire un pont de quelques grosses pierres, lorsque, ayant cru deviner à son embarras et à son geste qu'il voulait ôter sa chaussure, je m'acheminai en avant. J'entendis bientôt derrière moi le bruit de ses pas, mais je ne sais quelle honte m'empêchait de me retourner en me faisant craindre de rencontrer son regard. Comme si nous eussions été d'accord, elle éluda ce moment en venant se replacer à côté de moi, et nous continuâmes à marcher sans rien dire et sans plus songer au chalet dont nous laissâmes le sentier sur la gauche pour en prendre un qui nous ramenait vers la cure. Cependant, la nuit s'était peu à peu étendue sur la plaine, et les étoiles brillaient au firmament, et quelques bruits lointains ou plus près de nous, le chant monotone du coucou, se mêlait seul par intervalles au silence du soir. Dans les endroits où le taillis était peu épais, nous apercevions la lune scintillant parmi les feuilles et les branchages. Plus loin, nous rentrions dans une obscurité profonde, où le sentier se distinguait à peine du sombre gazon de ses bords. Louise marchait près de moi, et quelques frémissements s'étant fait entendre sous un buisson, elle me saisit la main comme par un mouvement involontaire. Un sentiment de courage prit aussitôt la place de l'inquiétude que je commençais à partager avec elle, et l'impression d'un plaisir tout nouveau me fit battre le cœur. Dans la situation où nous étions, c'était comme une issue à notre gêne, et quelque chose de la douceur d'une réconciliation. Il s'y joignait aussi pour moi un charme secret, comme si elle eût eu besoin de ma protection et que j'eusse été un appui pour sa timide faiblesse. Profitant de l'obscurité qui empêchait qu'elle ne s'aperçût de ma préoccupation, je tournais sans cesse les yeux de son côté, sans être rebuté de ce que je ne pouvais la voir. Mais je sentais mieux sa présence, et je savourais avec plus de douceur les tendres sentiments dont j'étais pénétré. C'est ainsi que nous atteignîmes la lisière du bois, où, retrouvant la voûte du ciel et la lumière de la lune, je retombais dans un autre embarras. Il me sembla qu'il n'y avait plus de motif pour que je retinsse sa main, et d'autre part, je trouvais qu'il y eût eu de la froideur ou de l'affectation à retirer la mienne. En sorte que, dans ce moment, j'aurais désiré de tout mon cœur qu'elle m'échappât d'elle-même. Je tirais toutes sortes d'inductions des plus insensibles mouvements de ses doigts, et les plus involontaires frémissements des miens me causaient une extrême émotion. Par le plus grand bonheur, une clôture se présenta qu'il fallut franchir. Aussitôt, je quittai la main de Louise, après avoir passé par tant d'impressions aussi vives que nouvelles. Quelques instants après, nous arrivâmes à la cure. Pendant que je relisais ma lettre, le bruit d'une croisée qui s'ouvre à la cure me fit tourner la tête. Je vis M. Prévert qui, debout dans sa chambre, me considérait. J'anéantis aussitôt ma lettre comme j'avais fait les autres. M. Prévert continuait de rester les bras croisés dans une attitude de réflexion et sans m'appeler, comme il lui arrivait quelquefois, pour nous donner une leçon à Louise et à moi. Remarquant qu'il avait mis son chapeau et l'habit avec lequel il avait accoutumé de sortir, je pris le parti de m'asseoir dans l'espérance que je le verrais bientôt sauter de cette fenêtre où sa présence m'imposait une grande gêne, sans que je vous eusse néanmoins le lui laisser voir en m'éloignant moi-même. Heureusement, un ami qui souvent déjà m'avait rendu d'éminents services vint me tirer d'embarras. C'était Dourac, le chien de la cure. Il n'était pas beau, mais il avait une physionomie intelligente, une sorte de brusquerie vive et franche qui donnait du prix à son amitié. Sous les grands poils noirs qui hérissaient sa tête, on voyait briller deux yeux dont le regard un peu sauvage se tempérait pour moi seul d'une expression caressante et soumise. Du reste, haut de taille et plein de courage, il avait eu souvent des affaires, et l'automne précédent, quelques jours après notre course, il était revenu glorieusement des chalets avec tous ses moutons et une oreille de moins, ce qui lui avait fallu l'estime et le compliment du hameau. C'est lui qui vint me trouver. Je me levai comme pour le caresser, ayant l'air de le suivre où il voulait me conduire. J'allais chercher plus loin une autre retraite. À quelques pas de la mare, un mur soutenait l'espèce de terrasse sur laquelle s'élevait au milieu des tilleuls et des noyers le paisible presbytère. Des mousses, des lichens, des milliers de plantes diverses tapissait cette antique muraille dont la mort était embarrassée par une multitude d'arbres et de buissons qui croissaient en désordre dans ce coin retiré. En quelques endroits où la terre était moins profonde, l'herbe seule couvrait le sol, formant ainsi de petits enclos parmi l'ombrage et la fraîcheur. C'est dans une de ces retraites que je vins m'établir. Le chien m'y avait précédé, flairant le terrain et faisant partir les oiseaux que recelaient ces tranquilles feuillages. Dès que je me fus assis, il vint s'accroupir en face de moi, comme pour savoir, à mon air, ce que nous allions faire. C'est à quoi je songeais moi-même, lorsque je crus entendre un petit bruit à quelques pas de nous. Je me levai aussitôt, ayant écarté les branches flexibles qui me fermaient le passage. Je vis le chantre qui faisait sa méridienne couche contre terre. Je le regardai quelques instants, retenu par je ne sais quelle curiosité de trouver de l'intérêt à considérer endormi et sans défiance cet homme que j'étais habitué à voir sous un aspect tout différent. Il me semblait, à la vue de son paisible sommeil, que je sentais mon cœur s'épurer et l'éloignement que m'inspirait se perdre dans un sentiment de respect pour son repos. Aussi ne retirais-je déjà tout doucement. Lorsque je fus ramené plus doucement encore par une indiscrète velléité, le chantre portait une jaquette de gros drap noir ayant deux larges poches en dehors. J'avais remarqué que de l'une d'elles sortait à moitié un papier ployé en forme de lettre. Oh, je ne sais quel bizarre rapprochement je vins à faire dans mon esprit entre ce papier et l'attitude pensive où je venais de laisser M. Prévert, mais ce fut à une idée aussi vague que se prit ma curiosité. Je retournai donc sur mes pas, mais dès lors avec l'émotion d'un coupable. Tremblant au plus petit bruit qui se faisait alentour, je m'arrêtais de temps en temps pour lever les yeux en haut, comme si quelqu'un m'eût regardé au-dessus des arbres. Puis je les baissais bien vite pour ne pas perdre de vue le chantre. Ses yeux noirs et courts, les robustes formes de son cou, cette tête dure et hâlée appuyée sur deux grosses mains calleuses, m'inspirait un secret émoi, et l'idée d'un réveil terrible épouvantait mon imagination. Cependant, Dourac, trompé par mon air d'attente et d'émotion, s'était mis à guetter tout alentour, la patte levée et le nez au vent, lorsqu'au bruit d'un lézard qui glissait sous des feuilles sèches, il fit un grand bond et tomba bruyamment sur ses feuilles retentissantes. Je restais immobile, tandis qu'une sueur froide parcourait tout mon corps. Ma frayeur avait été telle que je me serais éloigné immédiatement, sans une nouvelle circonstance qui vint piquer au plus haut degré ma curiosité. J'étais assez près du papier pour distinguer l'écriture de Louise. D'ailleurs, le bruit assez fort qu'avait fait Dourac n'ayant eu en aucune façon altéré le profond sommeil du chantre, j'étais sorti de ma peur à la fois soulagé et enhardi. Je ne conservais plus qu'une grande indignation contre Dourac, à qui je fis des signes muets de colère et toutes sortes d'éloquentes gesticulations pour m'assurer de son silence. Mais m'apercevant qu'il prenait la chose au grotesque, je finis bien ma harangue vite, car je voyais avec une affreuse angoisse qu'il fallait faire un saut et m'aboyer au nez. Je fis encore un pas. La lettre n'était pas reployée entièrement, mais négligemment froissée. Le chantre venait probablement de la lire ce que je reconnus à ses lunettes qui étaient auprès de lui sur le gazon. Mais j'éprouvai la plus délicieuse surprise lorsque, sur le côté extérieur, je lus ces mots tracés par la main de Louise à Monsieur Charles. J'eus la pensée de m'emparer de la lettre comme étant ma propriété, mon bien le plus précieux. Puis, réfléchissant aux conséquences que pourrait avoir cette démarche, je chancelai, et un petit mouvement nerveux que fit le chantre à cause d'une mouche qui s'était posée à fleur de sa narine acheva de m'ébranler. Je cherchais donc à lire dans l'intérieur des deux feuillets tout en inspectant les mouches. Oh, il y en eut tout, une entre autres qui me donna un mal infini. Chassée de la tempe, elle revenait sur le nez pour se poser ensuite sur le sourcil. Dourac, voyant les mouvements que je faisais pour les conduire, se leva, tout prêt à sauter dessus. Je laissai donc la mouche pour retourner à la lettre, tout en inspectant Dourac. Je commençai par souffler entre les feuillets pour les écarter, et je pus ainsi entrevoir les mots qui formaient le bout des lignes. Les premiers que je lus, tout inintelligibles qu'ils étaient, me causèrent une grande surprise. C'était ceci: cette lettre, vous serez déjà loin de... La ligne finissait là. Je crus m'être trompé. Qui sera loin? Mais loin de quoi? Je me perdais en conjectures. Espérant que les lignes suivantes me découvriraient quelque chose, je repris mon travail, mais avec moins de fruits encore. Car le papier se présentait de biais. Les fins de ligne devenaient toujours plus courtes, et la dernière ne me laissait plus voir que une ou deux lettres. Je lus des mots épars, des lambeaux de phrases, qui, sans m'apprendre rien de plus, me jetèrent néanmoins dans une vive anxiété. Je m'occupai aussitôt de lire le revers intérieur de la feuille qui m'offrait ce commencement des lignes suivantes dans un espace de même forme. Et je passai bientôt au transport de la joie la plus douce que j'eusse encore ressentie. Oh, le sens n'était pas complet, mais c'était mieux encore, car j'en voyais assez pour suppléer librement et selon mon gré à ce qui en restait voilé. « Oui, Charles, disait-elle, je me le reproche maintenant. Mais plus je m'attachais à vous, plus il me semblait qu'un invincible embarras s'opposa au moindre signe qui eût trahi le secret de mon cœur. Mais, mon ami, aujourd'hui que... » À ce langage, des larmes troublèrent ma vue. Je m'arrêtai quelques instants, puis revenant à mon travail, je pris les deux feuillets par le bout afin de les écarter et de lire plus bas. Alors, comme si tout dans ce jour-là eût dû concourir à réaliser le charme de mes rêves les plus chéris, j'aperçus une boucle de ses cheveux. Ici, le chantre souleva brusquement la tête. Je me jetai contre terre à la renverse. Je ne voyais plus et la peur m'ôtait le souffle. Dourac, surpris de ma chute, vint me lécher la figure. Je lui donnai sur le museau une tape qui provoqua un air pris plaintif. Alors la honte et le trouble me suffoquant, je fis à tout événement semblant de dormir moi-même. Mais dès que j'eus fermé les yeux, je n'osais plus les rouvrir. Je m'apercevais bien, au silence profond qui s'était rétabli, que le chantre ne faisait plus de mouvement. Mais loin de le supposer endormi de nouveau, Mon imagination me le représentait agenouillé auprès de moi, sa tête inclinée sur la mienne et son œil soupçonneux, cherchant à surprendre ma ruse dans mon regard. Au moment où j'ouvrirais les paupières, je voyais sa main levée, j'entendais son rude langage, en sorte que, fasciné par cette image menaçante, je demeurais les yeux clos et couvrant de la plus parfaite immobilité l'agitation extrême à laquelle j'étais en proie. À la fin, faisant un effort immense, j'entr'ouvris les yeux, que je refermai bien vite, puis, par degrés, je les ouvris tout à fait et je tournai la tête. Le chantre dormait de tout son cœur après avoir changé de position. J'allais me relever tout doucement lorsqu'au bruit d'un char qui passait sur la route, Dourac s'élança impétueusement hors du taillis en sautant par-dessus le chantre. Je retombai bien vite dans mon profond sommeil. Le chantre, troublé dans son repos, fit entendre un grognement indistinct et marmotta quelques paroles de gronderie contre le chien. J'attendais mon tour. Cependant, comme sa voix s'en allait mourant, je concevais déjà quelque espoir lorsque je me sentis frapper lourdement la jambe. Je redoublais de sommeil après avoir été secoué par un énorme soubresaut. J'eus le temps de faire des conjectures, car les mêmes terreurs me tenaient les yeux fermés. À la fin, je sentis avec épouvante que le monstre avait une chaleur sensible, et l'angoisse montant à son comble, je regardais. C'était la grosse main calleuse, nonchalamment étendue sur ma jambe, avec tout l'avant-bras y attenant. Cette fois, j'étais pris, mais pris comme à la trappe. Il n'y avait moyen ni de reculer, ni d'avancer. Toutefois, la peur me donnant du courage et le chantre ne bougeant pas, je me mis à réfléchir avec assez de sang-froid aux ressources que pouvait encore m'offrir ma situation. J'imaginais de substituer à ma jambe quelque appui artificiel, de façon qu'après l'avoir dégagé peu à peu, je puisse m'échapper. Et déjà je m'enfuyais en idée à toutes jambes, lorsque du haut de la terrasse, une voix m'appela « Charles !» C'était celle de Monsieur Prévert. Au même moment, Dourac bondit par le taillis, poussa droit à moi, piétina le chantre, et remplit l'air de ses aboiements. Le chantre se leva, et moi aussi. Son premier mouvement fut de porter les yeux et la main sur la poche où était la lettre, après quoi nous nous regardâmes. « Mais vous ici ? » s'écria-t-il. « Charles !» appela encore une fois M. Prévert. À cette voix, le chantre se contint et ajouta seulement ces mots. « Bon, allez, ça va finir. » Je m'échappais tout tremblant. Je fis un détour pour rejoindre M. Prévert afin de gagner un peu de temps, car le désordre de mes traits était tel que je n'osais me présenter à lui. Mais il se trouva devant moi au sortir du taillis. « C'est vous que je cherchais, Charles, me dit-il. Votre chapeau. Allez. » Nous allons faire une promenade ensemble. Ces mots m'embarrassèrent beaucoup, car mon chapeau était resté auprès du chantre, et à peine délivré de son terrible regard, je redoutais horriblement de m'y exposer de nouveau. Néanmoins, ne voulant pas paraître hésité, je rentrai dans le taillis. Mais la surprise et l'émotion me firent chanceler quand je vis sous les arbres le chantre qui nous observait silencieusement au travers du feuillage. Il s'approcha de moi et me présentant mon chapeau, Le voici, dit-il à voix basse. Allez, prenez, allez-vous-en. Je pris et j'allais encore plus déconcerté par ce ton inaccoutumé de modération qu'accompagnait un regard sans colère. Je rejoignis M. Prévert et nous nous éloignâmes. Pendant que je marchais à ses côtés, mon trouble se dissipait peu à peu. Mais à mesure que le calme renaissait dans mon âme, une inquiétude d'un autre genre commençait à s'y joindre. L'air du chantre, la tristesse de M. Prévert, cette promenade inattendue, toutes ces choses présentes à la fois à mon esprit, m'y liaient ensemble d'une façon mystérieuse. Une attente sinistre suspendait ma pensée, impatiente de se porter sur la lettre de Louise. Monsieur Prévert continuait à marcher en silence. À la fin, je jetai furtivement les yeux sur sa figure et je crus y suspendre une espèce d'embarras. Le subit effet de cette remarque fut de m'ôter celui qui m'était ordinaire auprès de lui, et je lui conçus l'espoir de lui parler cette fois selon le gré de mon cœur. L'idée que cet homme, si digne d'être heureux, portait en lui quelque secret chagrin, achevait de m'enhardir par la pensée que peut-être il ne daignerait pas de la partager avec moi. « Si vous avez quelque peine, Monsieur Prévert, lui dis-je, en rougissant. Est-ce que vous ne me jugeriez pas digne de la partager ? Oui, Charles, me répondit-il, j'ai une peine. Je vous la confierai. Et je vous crois si digne de la connaître que je fonde ma consolation sur la manière dont vous la supporterez vous-même. Mais allons plus loin, ajouta-t-il. Ces mots me troublèrent et mille conjectures se croisèrent dans mon esprit. Néanmoins, un sentiment d'orgueil se mêlait à ce trouble, car les paroles confiantes de M. Prévert me relevaient dans ma propre estime.